Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Dans les cours que nous avons suivis précédemment, John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Sociétés de la Rome antique, est revenu sur le marquage politique et religieux du territoire de Rome. Si une des limites antiques de la ville, limite désignée par une série de temples publics et privés, se situait bien au premier mille, c'est-à-dire à 1,6 km du centre de la ville archaïque fondée par le légendaire Romulus, certains savants avaient émis l'hypothèse que cette limite s'était très vite étendue jusqu'au 5e et 6e mille qui marquaient encore les confins de la commune de Rome sous Mussolini. Mais, dans ses derniers cours, John Shedd a démontré que ce deuxième marquage était en fait une construction seconde, une réécriture des frontières de la cité, datant de l'empereur Auguste, qui, pour conforter son pouvoir et le rêve de la Rome éternelle, s'appuya sur des mythes religieux, mythes anciens et disparates, que ses juristes et ses antiquaires reconstruisirent ou même composèrent à nouveau frais. Et, puisque dans l'ancien monde romain l'espace était à la fois religieux et politique, les savants antiquaires qui travaillaient pour Auguste réorganisèrent aussi les rites qui s'appliquèrent à Rome, à la ville elle-même bien sûr, mais également à tout le territoire relevant de sa juridiction. John Shedd expliquait que nombre de rituels et de sacrifices étaient donc dédoublés. Les cultes avaient lieu d'abord à Rome même, puis étaient célébrés dans le territoire appartenant à Rome par les mêmes magistrats ou les mêmes prêtres. C'était le cas, par exemple, des sacrifices à Castor et Pollux, célébrés à Rome le 27 janvier et le même jour à Ostie, ou des Augustales, célébrés par les Sodales Augustales à Rome et à Beauvillé. À la fin du dernier cours que nous avons suivi, John Shedd avait commencé à nous parler des féries latines. Les consuls et tout le gouvernement se rendaient au Monte Cavo pour célébrer le culte à Jupiter Latialis, c'est-à-dire à Jupiter, protecteur du Latium. L'officiant du culte pouvant être l'empereur lui-même, il fallait donc élire à Rome un préfet qui gérait les affaires courantes pendant le déplacement du pouvoir pour raisons religieuses. Ce soir, John Shedd poursuit l'examen de ces nombreux dédoublements cultuels en prolongeant celui des féries romaines. Écoutez.
Il existait sur une des hauteurs du Quirinal appelée Colis Latiaris, la colline du Latium littéralement, un lieu de culte de Jupiter Latiaris, malheureusement inconnu, on ne l'a pas retrouvé, qui doublait donc, maintenant on s'y attend, le site du Monte Cavo. Avant les féries, on y célébrait un sacrifice durant lequel, semble-t-il, la statue du dieu était aspergée par le sang d'un condamné à mort qui, selon les hypothèses de Georges Ville dans son ouvrage sur les gladiateurs, reprise par Alexandre Grandazzi, avait combattu dans l'arène. Nous connaissons mal toute cette cérémonie, en partie parce que seuls des textes polémiques chrétiens en parlent pour souligner la monstruosité d'une religion pratiquant le sacrifice humain. Vous pouvez imaginer le volume de la bibliographie qu'a suscité ce sacrifice humain, soit pour rejeter l'accusation chrétienne, soit pour l'accepter et tenter de justifier le rite. L'important pour nous est que durant cette fête, célébrée sur le Monte Cavo, les rites parallèles sont effectués à Rome. Il y avait sans doute un sacrifice suivi d'un spectacle de gladiateurs. Pendant celui-ci, était recueilli, semble-t-il, le sang d'un bestiaire mis à mort. On aspergeait avec ce sang la statue de Jupiter. S'agit-il d'une substitution de sacrifice humain ? Je ne veux pas entrer ici dans ce débat, mais je ne serais pas scandalisé si c'était le cas, car jusqu'en 126 avant notre ère, au moins, Les Romains pratiquaient dans leur religion la plus publique, la plus officielle, le sacrifice humain. Et même si ce thème n'était pas débattu en public, il existait pourtant. Je parle des enterrés vivants du Forum Boarium. Au spectacle de gladiateurs se joignait, semble-t-il, un second spectacle, une course de quadrige au Capitole, dont le prix était une coupe d'absinthe que buvait le vainqueur. Passons sur le problème de la difficulté d'organiser une course de quadrige, donc avec quatre chevaux, pour chaque attelage au Capitole, même si l'aire capitoline est assez grande. Alexandre Grandazzi pense qu'il faudrait corriger le texte de Pline et lire « sub capitolio », ce qui se référerait au cirque Flaminius, donc au pied du Capitole, ce qui se référerait au cirque Flaminius, situé à une centaine de mètres du pied du Capitole. Mais on peut se demander pourquoi Pline aurait alors évoqué le Capitole dans son texte. Il aurait dit tout de suite dans le cirque ou in Flaminio ou n'importe quoi. On peut également tenir compte du fait que le terme Capitolium, Capitole, est aussi le nom d'une région de Rome et que la course pourrait donc en fait tourner autour de cette région, se dérouler dans cette région, par exemple au pied du Capitole par les voies disponibles. Tenant compte d'un autre texte polémique dû à Novatien, qui rapporte que le sang humain était également bu à l'occasion de ces jeux, Grandazzi suppose que le vainqueur de la course recevait en fait du vin et de l'absinthe, le vin remplaçant sans doute le sang. C'est peut-être une hypothèse hasardeuse, car nos sources sont très maigres. Il est par ailleurs difficile de reconstruire le déroulement du rite à partir des sources que nous avons. Et cela d'autant plus que le vin jouerait ici un rôle important, alors qu'il était exclu, comme nous l'avons vu, des rites du Mont Albin. Comment ensuite imaginer un sacrifice, puis un spectacle de gladiateurs de plusieurs heures, suivi d'une aspersion de la statue sur le Quirinal et une course de chars ? C'est un programme un peu chargé. Tout ça est difficilement compatible avec le déroulement ordinaire des Jeux. Mais peu importe, ce sont là des détails et des impasses sans doute dans notre enquête. L'important, c'est la célébration des féries latines à Rome, d'abord, avant le rite central sur le mont Albin. Nous sommes en présence du même scénario que pour le sacrifice à Dea Dia, qui était certes beaucoup plus sage et mesuré que la cérémonie des féries latines, d'après ce qu'on en dit, mais qui obéissait dans sa substance au même déroulement en deux et même trois temps, puisque chez les Arvales, il y avait encore une clôture urbaine du sacrifice. Pour les féries latines et les autres cultes pris en compte, nous ne connaissons pas de clôture urbaine. Les liens entre un sacrifice ou un rituel célébré à la campagne et un lieu de culte urbain correspondant sont également attestés en pays grec. Ce n'est pas seulement un phénomène romain ou latin. Ainsi, les Athéniens reliaient-ils le petit sanctuaire d'Artémis Brauronia de l'Acropole au vieil Artemision de Brauron. La procession des Oscophories partait du temple de Dionysos à Athènes et se dirigeait vers le temple d'Athéna à Phalère, près du Pirée. Les objets sacrés d'Éleusis sont transportés d'Éleusis dans l'Éleusinion d'Athènes avant d'être à Phalère, près du Pirée. Les objets sacrés d'Éleusis sont transportés d'Éleusis dans l'Éleusinion d'Athènes avant d'être à Phalère, près du Pirée. Les objets sacrés d'Éleusis sont transportés d'Éleusis dans l'Éleusinion d'Athènes avant d'être à Phalère, près du Pirée. Les objets sacrés d'Éleusis sont transportés d'Éleusis dans l'Éleusinion d'Athènes avant d'être ramenés à nouveau à Éleusis. Lors de la fête des Skyra, une prêtresse et deux prêtres se rendaient de l'Acropole en un lieu appelé Skyra. Enfin, si nous allons dans le Péloponnèse, une procession portait une statue de Corée, de Hélos en Laconie, dans un Eleusinion situé dans le Taygète, près d'un lieu appelé l'Apitéo. Par conséquent, voilà quelques exemples de ce type de procession en pays grec qui continue jusque sous l'Empire. Ces processions semblent avoir été un rite permanent quand il s'agissait de relier un lieu de culte situé sur le territoire d'une cité et la ville, et éventuellement un lieu de culte situé dans la ville. Il y a toujours ce doublement. À Rome, malheureusement, c'est pour cela que j'ai dû citer des exemples grecs, nous ne disposons que de quelques rares indices de l'existence de telles processions. Nous savons que les arvales se déplaçaient, peut-être avec une statue cultuelle, car lors de la célébration du sacrifice à Deadia, dans la résidence privée du président annuel des arvales, une statue de la déesse est mentionnée. Ce sanctuaire urbain comporte une statue cultuelle. D'autre part, au sanctuaire de Dia, il est question de l'onction des déesses, au pluriel, ce qui concerne sans doute, je le pense, Deadia et la mère des Lares, qui sont toutes les deux bénéficiaires du sacrifice, comme nous l'avons vu, mais on peut toujours supposer qu'il s'agit en fait de deux statues de la même déesse, Deadia, dont l'une aurait été transportée à la Maliana à partir de la demeure du président de la confrérie, puis à nouveau ramenée dans celle-ci. C'est toujours une possibilité. Nous savons aussi que l'on partait en groupe, mais je me demande si le rédacteur aurait écrit les déesses à ce moment-là. Il aurait parlé de la déesse ou des statues ou n'importe quoi. C'est pour ça que je préfère, pour cette raison que je préfère l'autre solution. Nous savons aussi que l'on partait en groupe au temple de Fors Fortuna du 6e mille à celui de Robigo du 5e mille. La procession de la grand-mère jusqu'à l'Almo, cet affluent du Tibre situé à 1 mille en aval du Tibre, est également connue. Mais c'est à peu près tout ce que nous avons à Rome, car il n'existe pas d'évocation d'un déplacement solennel, par exemple des magistrats dans les monts Albins ou à Lavinium. L'exemple grec confirme en tout cas la présomption émise que le lien entre les lieux de culte du territoire était mis en évidence par le déroulement d'une procession à partir de la ville et forcément aussi par un retour à la ville. Pour l'instant, nous avons cité des déplacements vers des lieux relativement proches de la ville. Comment se déroulait alors le culte concernant les autres sites lointains de l'Ager Romanus, Nemi, Lavinium, Ostie, Lanuvium, Tusculum? Pour Ostie, nous avons vu que les cultes célébrés dans le port de Rome l'étaient également dans la ville, le même jour, et que l'on revenait après un ou deux jours, plusieurs jours. On peut imaginer que, comme pour Deadia ou Fors Fortuna, le transport sur le Tibre permettait de rejoindre facilement le second lieu de culte situé à Ostie et d'y célébrer le sacrifice et éventuellement des jeux le jour même de la célébration effectuée à Rome. Une ou deux heures, on peut être à Ostie. Il est toutefois à noter qu'il n'est pas question dans ces cas de jeu à Rome comme lors des féries latines. Le culte de Diane à Nemi est un exemple parfait du fonctionnement d'un double culte. Le culte régulier et l'autorité religieuse à Nemi n'étaient plus à l'époque impériale un rex nemorensis, un roi de Nemi ou du bois, de rang servile, un esclave. Nous ne savons rien de l'époque républicaine. Tout ce que nous avons, ce sont des documents d'époque impériale. Sous l'Empire, c'était le dictateur Daricy, magistrat municipal de la cité, qui était le maître des lieux. C'est le terme dans cette dédicace à Diane de Nemi et à Vesta, de dictatori, au dictateur, et puis vient le nom du dictateur. Nemi se trouvait en effet sur le territoire du municipe d'Aricy, et c'est pour ça que le dictateur d'Aricy était le maître du bois sacré. C'était lui qui en était responsable. Et un dédicant mentionne dans le bois sacré de Nemi Trajan comme autorité en tant que dictateur. Parce que, bien sûr, les empereurs pouvaient être régulièrement élus à des dignités de ce type. Il est nommé donc dans cette inscription en tant que dictateur. Et c'est une date, en fait, qui est donnée. C'est sous la dictature de Trajan à Aricy que toute cette inscription, cette dédicace a eu lieu. Le dédicant, qui s'appelle Publius Cornelius Tropimus, est un Romain de Rome qui était un personnage dans son quartier, apparemment, il le dit, dans la 14e région, c'est-à-dire au Trastevere, où il était curateur du Vicus Quadrati, c'est-à-dire la route de Quadratus, la rue Quadratus, comme nous dirions. Il fait une dédicace à Diane Nemorensis et à Viesta, avec son épouse, qui s'appelait Lania Tionnoe, ce qui implique que cette dédicace est privée, n'est-ce pas, qu'il agite à titre privé. L'inscription date de l'année 100 de notre ère. Trajan est cité comme dictateur, comme j'ai dit, avec son préfet, c'est-à-dire son remplaçant, parce qu'il est évident qu'il ne peut pas expédier les affaires courantes et même peut-être extraordinaires du sanctuaire, parce qu'il n'est pas sûr qu'il était là, et deux autres magistrats qui sont à son service, son secrétaire, etc. Cornelis Trophimus associe à sa dédicace la déesse Vesta, parce qu'il était boulanger de son état, Pistor Romaniensis, vous l'avez en toutes lettres après son nom, comme il l'écrit dans son latin, qui est moins précis que ses connaissances administratives. Était-ce la même chose sous la République ? Était-ce déjà un dictateur d'Aricy qui avait la haute main sur le bois sacré ? C'est possible. En tout cas, comme je l'ai dit, nous ne connaissons pas de clergé romain particulier. Nous avons vu que Claude y faisait offrir des sacrifices expiatoires par les pontifes, ce qui est de nouveau significatif. Par ailleurs, les Romains y sacrifient, comme notre Trophimus. Les matrones romaines y font des pèlerinages. Mais Rome possède aussi son propre temple de Diane sur l'Aventin. Dédoublement à nouveau. Or, ce temple, les textes nous le disent, était une filiale du temple de Némi. Diane était même venue à Rome avec Égérie, la source, qui possédait une source dans le bois sacré des Camènes, au début de la Via Appia, à l'extérieur de la porte Capène, vers le premier mille, une source dont l'eau servait chaque jour au nettoyage du sanctuaire et de la maison des Vestales. Le temple de l'Aventin est attribué à Servius Tullius et il se donnait, d'après Varron, comme un temple commun des Latins. Donc la référence à Némi est explicite. Ce temple a été restauré à l'époque d'Auguste, mais malheureusement, son emplacement n'est toujours pas connu avec précision. Diane Aventine était la déesse matronale typique, comme la Diane de Némi. Son anniversaire tombait le 13 août, le même jour que celui du temple de Némi. On pourrait aussi dire l'inverse, que Némi tombe le jour de l'anniversaire de Rome. Mais admettons que Rome ait adopté l'anniversaire de la Diane de Némi. Nous ignorons si la fête de Némi débutait à Rome, si les matrones commençaient leur procession avec des torches au temple de l'Aventin. En tout cas, ce jour-là était fêté le 13 août par les matrones qui se lavaient alors les cheveux rituellement et se coiffaient avec grand soin. Ce qui nous importe, c'est la concomitance entre la fête romaine et la fête de Némi, souligné par le transfert à Rome d'une divinité liée à la Diane de Némi, la source Égérie, dont on a peut-être découvert le nymphée. Pour les autres lieux, il y a même une procession, mais elle est privée ici, puisque c'est les matrones qui rejoignent à pied Némi. Mais malheureusement, nous ne savons rien des magistrats ou d'autres responsables. Pour les autres lieux de culte, la situation est plus complexe, puisque nous n'avons pas de renseignements plus précis sur le doublement des lieux de culte. Nous avons amplement parlé des sacrifices offerts à Lavinium par les magistrats et les prêtres de Rome, en présence du peuple rituel des Laurentes de Lavinium, qui sont eux-mêmes des Romains. Les sacrifices s'adressaient aux Pénates et à Vesta, d'une part, à Indiges, de l'autre. Le premier commentaire qu'il faut faire, c'est que ces sacrifices ne coïncidaient pas avec une fête régulière du calendrier romain. Leur date était en effet mobile et calée sur celle également mobile des féries latines. Nous avons vu en effet que les cérémonies de Lavinium avaient lieu 10 jours après celle du Monte Cavo. Il est donc difficile de trouver la fête correspondante dans le calendrier romain. Il existe toutefois à Rome des temples des pénates du peuple romain et précisément un sanctuaire de Vesta. Cette dernière est installée, d'après les Romains, depuis les origines en bordure du Forum romain. Donc là, c'est plus romain que l'Avinate. Les pénates du peuple romain des Quirites, quant à eux, étaient vénérés publiquement avec Vesta et possédaient sur la Velia, près du temple, du sanctuaire pardon, de Vesta, un petit temple, une chapelle plutôt, qui est attestée formellement par les textes en 167 et 165 avant notre ère et dans d'autres inscriptions. Malheureusement, on ne l'a jamais retrouvé, ce temple. Il y a des discussions qui continuent. Comme la ville d'Albe, les Romains l'a fait, les Romains auraient créé, en quelque sorte, une filiale romaine pour ces cultes, pour Vesta et les pénates notamment, qui, d'après le mythe, ne purent être enlevés de leur lieu de culte originel, à Lavinium. Et toujours, les statues revenaient à Lavinium quand les autorités d'Albe les transportaient dans la nouvelle colonie, dans la nouvelle métropole latine. En revanche, ce que nous avons à Rome aussi, nous n'avons pas de mention non plus d'un culte de Jupiter Indiges à Rome. Ça n'existe qu'à Lavinium. En revanche, la source qui coulait à l'angle de la maison des Vestales au Forum, la fontaine Juturne, existait aussi à Lavinium. Elle venait aussi de Lavinium. On ne peut manquer donc ici de penser à la source Égérie, qui elle aussi est venue d'un sanctuaire fédéral, comme Lavinium, et participe désormais à la vie religieuse de Rome. Tout semble donc indiquer que les Romains ont transféré des cultes de Lavinium à Rome, et il est possible que les prêtres et consuls romains aient d'ailleurs sacrifié à Rome, aux Pénètes et à Vesta, entre autres, avant de se rendre à Lavinium. Parce que même si nous n'avons pas de fête inscrite sur le calendrier, puisqu'il s'agissait d'une fête mobile, une fois que l'on connaissait les dates, il est possible qu'avant de partir, ils aient fait un sacrifice au Forum à ses divinités. Le transfert à Rome de cultes partagés avec des peuples et des cités soumises est attesté également pour Lanuvium, l'autre grande ville latine. Si pour Lavinium toutes les données baignent dans les brumes de l'histoire originelle, les données sont plus claires à Lanuvium. Après la défaite des Latins, le culte de Juno Caespes a été mis en commun avec les Romains et des sacrifices consulaires étaient célébrés dans le temple de cette déesse à Lanuvium. Nous en avons parlé. Or, en 194, un temple de Juno Caespes, et non Matuta comme le manuscrit de Tite-Live le comporte, fut construit par Gaius Cornelius Cethegus sur le Forum Holitorium, près du théâtre de Marcellus. Son anniversaire tombait le 1er février, et la statue de la déesse était la même qu'à Lanuvium. Elle était représentée couverte d'une peau de chèvre, dont la tête encore pourvue de cornes la couvrait comme un casque. Elle portait le bouclier dans une main et la lance, c'est une Junon guerrière, ainsi que des chaussures à pointes relevées. Et c'est typique des chaussures archaïques, et donc elle a cette tenue un peu étrange. Il n'est pas absurde de supposer que cette Junon Caespes recevait un culte simultané à Rome et à Lanuvium lors du sacrifice consulaire dans la cité latiale. En tout cas, Lanuvium apparaissait comme étroitement lié aux cultes urbains des Romains. Dans ce cas, comme dans celui de Lavinium aux Hosties, pardon, nous savons que les cultes suburbains sont des cultes publics de Rome. Le temple construit à Rome soulignait cette mainmise romaine. Dans une série d'autres cas, ceci est moins clair, mais semble obéir à la même règle. On songe évidemment ici à un rite particulier, le rite de l'evocatio, qui consistait littéralement à appeler à l'extérieur, c'est-à-dire qui consistait à appeler une divinité qui protégeait une cité à laquelle les Romains faisaient la guerre, à rejoindre le camp romain contre la promesse de recevoir à Rome un culte équivalent ou plus important même. On a beaucoup écrit sur les vocatio, en contexte militaire ou non, parce que vous pouviez aussi inviter chez vous une divinité sans faire la guerre à la cité. Mais on ne connaît pas très bien la pratique rituelle elle-même, au point qu'on a pu mettre en cause, même en doute, sa réalité, du moins à l'époque historique. C'est le cas du livre de Gustafsson, notamment, qui pense que c'est une reconstruction d'antiquaire, d'érudit de la fin de la République. Le récit sur l'introduction de Junon Reine à partir de Veille est longuement raconté par Tite-Live. La tradition du IIIe siècle de notre ère rapporte également l'évocation de Junon lors du siège de Carthage en 148 avant notre ère, dont Macrobe donne même, voilà le texte de Servius qui parle de l'évocatio de Junon, et Macrobe a même conservé la prière d'évocation à la Junon de Carthage. En tout cas, évocation ou non, Rome avait tendance à s'occuper de près des cultes des cités soumises. Dans la définition du terme « municipalia sacra », littéralement « rite des collectivités civiques », le grammairien Festus précise les conséquences locales de cette pratique. Il s'agit d'un texte très intéressant qui concernait les obligations religieuses des cités qui sont devenues municipes romains. Ce ne sont pas des colonies romaines, mais des cités qui conservent en grande partie leurs institutions traditionnelles. Pour ce qui est de la religion, les pontifes ont voulu qu'ils conservent leurs obligations religieuses antérieures. C'est ce que dit ce texte. Et c'est ce que nous avons effectivement constaté dans un certain nombre des exemples examinés. Octavien Auguste, au début de l'Empire et de notre ère, a manifestement restauré partout les pratiques ancestrales qui s'étaient éteintes, non seulement à Rome, mais aussi dans les cités des environs. Nous en verrons d'autres exemples, mais rappelons que ce fut le cas de Caenina, de Sucinium ou de Cavum sur le mont Albin. Ça, nous l'avons bien vu. Au besoin, c'était des prêtres romains qui assumaient tous ces devoirs. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. Les cultes et divinités en cause sont plutôt ceux que les Romains installèrent à Rome après la conquête. Je veux voir le doublement des cultes. D'après les chrétiens Arnob, les Romains étaient soucieux de respecter les devoirs religieux des cités vaincues. Ils considéraient que les Romains jugeaient qu'ils étaient désormais soumis eux-mêmes à ces obligations religieuses. Et afin d'y répondre, ils auraient suivi deux procédures. Soit ils confiaient le soin du culte à certaines familles, soit ils en faisaient des cultes, publics, collectifs du peuple romain. La plupart de ces cultes sont en effet devenus des cultes publics. Mais autrefois, il n'en était pas forcément ainsi. L'exemple du culte importé à Rome et confié à une famille dont Arnob parle, est très vraisemblablement celui d'Hercule à l'Ara Maxima, au grand hôtel sur le forum romain. Ce culte provenait de Tibur, Tivoli,